Changement de genre, de registre et de décor, et bienvenue en Angleterre, au XVIIe siècle, au moment où les puritains prennent le parti de Cromwell contre Charles Ier Stuart. Bienvenue en Angleterre, mais bienvenue à l'Opéra de Lyon, bien sûr, pour deux représentations en version concert des puritains, Il Puritani de Bellini. Encore une pièce historique, après Macbeth, encore un italien, après Verdi, et encore une fois, la petite histoire rejoint la grande lorsque Elvira, fille d'un gouverneur puritain, doit épouser un cavalier du parti adverse, Arturo, qui fuit le jour de leur mariage, sacrifiant l'amour au profit de son camp, en aidant la veuve de Charles Ier, Henriette de France, à s'enfuir de la forteresse où elle est retenue. Apprenant que son amant est parti avec une dame, Elvira sombre alors dans la folie, mais pas de mystère et ne vous inquiétez pas, l'histoire se clôt sur un happy end, puisqu'en effet, chez Bellini, l'essentiel n'est pas la dramaturgie classique, réduite ici à la portion congrue, mais la grandeur de la partition, le plaisir du bel canto. Alors pour nous parler de ce mélodrame en trois actes de Vincenzo Bellini, sur un livret de Carlo Pepoli, et fondé sur un drame historique de Jean-Jacques François Ancelot et Joseph-Xavier Boniface, tétron des cavaliers, je vous emmène donc à l'Opéra de Lyon, du côté de l'entrée des artistes, pour une interview exclusive avec Stefano Rabaglia, lui-même chef d'orchestre. Et pour ces deux concerts des Puritains, joués les mardis 13 et dimanche 18 novembre à l'Opéra, assistant du chef d'orchestre Evelino Pido. Interview. Alors bonjour Stefano Rabaglia.
Bonjour.
Alors je le disais à l'instant à nos auditeurs, vous êtes chef d'orchestre. Vous avez par exemple dirigé alors le plus récemment la Traviata à Venise en 2010, l'année dernière le Barbier de Séville à Oslo, et puis en octobre dernier, toujours à Venise, c'était Locazione fa il ladro. Et là donc, pour les Puritains de Bellini, à l'Opéra de Lyon, un opéra en trois actes, vous assistez Evelino Pido, chef d'orchestre,
Oui.
pour deux représentations, celle de mardi 13 novembre et celle de dimanche 18 novembre. Alors, les Puritains, Bellini, pour vous, qu'est-ce que ça fait de diriger une partition sur justement Bellini?
La musique de cette période de Bellini, Donizetti, pose des problèmes aux chefs d'orchestre qui sont tout à fait particuliers. Parce qu'il s'agit de partitions qui sont apparemment simples, dirais-je. Avec l'orchestration n'est pas tellement riche comme la musique de Verdi et puis plus tard de Puccini ou Wagner ou Richard Strauss. Donc pour le chef d'orchestre, c'est plus difficile. Parce qu'il faut trouver dans la partition surtout ce qui n'est pas écrit.
Vous nous dites c'est difficile quand c'est simple,
Ah
finalement.
oui, tout à fait, tout à fait. C'est beaucoup plus difficile parce que une partition de Puccini, c'est vraiment tellement bien écrit,
Il faut se
riche
laisser guider.
d'indications. Donc on peut seulement la ruiner. Mais c'est difficile d'ajouter quelque chose ou de changer, parce que c'est une autre époque. La musique était écrite d'une autre façon, avec des temps différents. Et à l'époque du bel canto, les compositeurs devaient écrire souvent très très vite. Et donc, ils ne pouvaient pas tout écrire, mais il y a une partie que c'est la plus importante, que c'est l'interprétation. Et là, c'est vraiment difficile et j'ai appris à petit surtout dans les années que j'ai travaillé avec Evelino Pido, j'ai appris à aimer ce répertoire et à essayer de trouver ce qui n'est pas écrit mais quand même fait partie
De
de la
l'œuvre.
partition de l'ouvrage.
Alors, dans la partition de Bellini, qui est un auteur qui a eu une carrière assez courte, il est
Oui.
mort à 34 ans d'une tumeur
Juste
intestinale.
après
C'est ça.
les
Six
puritains.
mois après, il mourait, et dans son œuvre, on retient pas forcément les puritains. On retient peut-être I Capuletti e di Montechi, on retient peut-être la Somnambula et surtout Norma avec oui. cette magnifique interprétation oui, de la Callas oui. qu'il a figée, on va dire, pendant un petit moment, en ayant redonné justement au bel canto dont vous parliez des accents loin du vérisme, des accents sincères, des accents vraiment plein de vie et plein d'énergie. Et on retient pas forcément les puritains. Alors justement, c'est la dernière pièce de Bellini. Elle a été jouée le 24 janvier 1835, il mourait en septembre. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, les puritains, dans l'œuvre de Bellini, et quelle est sa couleur particulière?
Oui, alors c'est vrai qu'il a travaillé à la partition de Puritani beaucoup plus longtemps que pour les autres opéras. Et il a fait un grand travail d'expérimentation, on peut dire. A vraiment expérimenté beaucoup de choses par rapport à l'orchestration et la partition est beaucoup plus riche de signes, d'indications, de nuances, de phrasés que les autres opéras qu'il a écrits. Et donc vraiment c'est une espèce de on dit testament, en fait le testament. Et le problème, c'est que la difficulté pour les chanteurs est absolument terrible. C'est une difficulté. Surtout pour les ténors. Le ténor qui est une espèce de ténor que aujourd'hui n'existe plus. Il a, tout le monde le sait, il a écrit un contre-fa. Pour le ténor, c'est une note absolument impossible à chanter aujourd'hui avec le style de chant moderne. À l'époque, le ténor comme Rubini, qui a créé le rôle à Paris, était un baryton ténor, disons. Donc, une voix riche, pleine de baryton, avec des aigus et des contre-aigus, probablement en falsetto, en falsettone, et qui lui permettait de chanter des notes très 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 aiguës. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que les ténors doivent chanter Verdi, tout le répertoire, et ils ne peuvent pas être spécialisés pour chanter. Donc c'est vraiment très difficile à jouer cet ouvrage. Parce que vraiment pour les chanteurs est un défi incroyable. Et en plus, il faut aller plus loin que le virtuosisme vocal. Donc, comme vous avez dit, et c'est très très vrai, c'était Callas qui a fait vraiment une espèce de renaissance de ce répertoire, parce qu'elle chantait ce répertoire avec la technique, avec les variations et tout ça, mais avec une expression absolument moderne, absolument émouvante. Et donc c'est deux fois difficile. C'est difficile pour chanter les notes et c'est difficile pour interpréter les rôles et d'une façon vraiment convaincante.
Convaincante. Alors, merci. Justement, ce répertoire si difficile à interpréter, c'est le bel canto dont on parle depuis tout à l'heure. Et alors, ces airs coulants, expressifs, et parfois très spectaculaires, on parlait du contrefa à l'instant, c'est le bel canto qui s'invite à Lyon, mais peut-être qu'il s'invite trop rarement à l'Opéra de Lyon, parce que quand on regarde la programmation de cette année et de l'année dernière, le bel canto est une part si ténue à l'Opéra de Lyon. Et puisque vous voyagez beaucoup, je l'ai dit en vous présentant, est-ce que c'est quelque chose qui est la norme un peu partout? Est-ce oui. qu'il y a une perte de mode du bel canto?
Oui, tout à fait, c'est la norme un peu partout, même en Italie, pour les raisons que je dis. C'est difficile de trouver une distribution. Et donc, le public le connaît toujours de moins en moins, sauf peut-être les mélomanes.
Et vous, en tant que chef d'orchestre, c'est vraiment un défi pour vous, le bel canto, et est-ce que c'est un défi plaisant? Vous allez avoir plaisir à diriger?
Je vous dirais très très sincèrement, il y a pas mal de chefs d'orchestre qui n'aiment pas diriger son répertoire, pour les raisons que j'ai dit d'ailleurs, parce que apparemment l'orchestre est en deuxième plan. Mm-hmm. ce n'est pas vraiment comme ça, parce que dans l'orchestre, il y a une vie et l'orchestre participe beaucoup, doit. L'accompagnement est un art et c'est très difficile. Mais si on trouve la clé, l'orchestre est très important dans ce répertoire. Et je vous dis sincèrement encore que j'ai appris avec le temps à aimer ce répertoire, parce que c'est difficile de trouver la clé pour donner la vie à cette musique. Parce que si on joue c'est tout simplement l'accompagnement, comme ça, c'est fini. Et alors même la belle mélodie reste une belle mélodie, mais le bel canto, ce n'est pas la belle mélodie. C'est une mélodie romantique et qui doit émuer, doit être émouvante, doit être vraiment l'expression de l'âme. Et alors on comprend même la longueur de cette pièce et on comprend les raisons. Je trouve que très très souvent des pièces comme la Sonnambula par exemple, ils sont très très, très mal entendus, parce que et c'est un danger. En Bellini, vous avez toujours une belle mélodie, en italien on dit coulante, c'est la crèche, quand les mélodies que
les airs qui bercent,
une air qui berce, et c'est dangereux parce que c'est facile de devenir égale tout le temps. Et alors la belle mélodie peut être une mélodie dramatique, peut être une mélodie pleine d'amour ou de haine. Donc il faut vraiment trouver dans ce langage le moyen d'exprimer les sentiments. Sinon, vraiment, ça reste quelque chose d'agréable.
Finalement, on n'est pas très loin de la littérature et de ce que disait Rimbaud à la fin du siècle, hein, mais à la fin du 19e siècle, quand il disait qu'il fallait trouver une langue, là, c'est avec cette langue, il faut trouver à l'intérieur de la langue quelque chose pour l'exprimer. Et cette langue très typique du bel canto, donc début du 19e siècle, où donc on parlait de Bellini, mais on peut parler aussi, dans ce début du 19e siècle, d'autres très grands noms, comme par exemple Donizetti, ou alors Rossini. Et parmi ces trois, comment vous les caractériseriez, tous les trois qui se sont connus, qui ont partagé parfois des collaborations, quelle couleur a Bellini dans ce triangle des trois du bel canto?
D'abord, Rossini, c'est le maître pour tous les compositeurs de la première partie du 19e siècle, et même... plus tard encore Verdi, et vraiment il y a beaucoup de l'héritage de Rossini. La différence est dans l'esprit. Les compositeurs qui suivent Donizetti, Bellini, ils sont tout à fait plus romantiques, et en plus ils commencent à ressentir de le Risorgimento, c'est l'époque quand l'Italie essayait de trouver l'unité et l'indépendance des étrangers. Et donc il y a beaucoup de choses que vous ne trouverez pas en Rossini. D'accord. Et donc la différence, c'est dans l'histoire même du pays. Et par rapport à la musique, il y a un développement, bien sûr, de l'harmonie qui devient de plus en plus riche, et de l'orchestration. C'est un procès qu'on trouve un peu partout, dans toutes les nations, en France ou en Allemagne. Et c'est vrai en Italie aussi. Et plusieurs critiques disent que Rossini a arrêté d'écrire peut-être pour cette raison, parce qu'il il avait compris que son temps était fini. Il avait tout dit, il avait, je ne sais pas, personne ne sait si c'est vrai ou pas. Parce que si on entend le Guillaume Tell, voilà, c'est vraiment moderne. Hein,
il avait tout dit à 37 ans, lui aussi, il a fini sa carrière très tôt.
Très très tôt.
Donc là, c'est...
Mais c'est vrai que l'esprit est différent. L'époque de Rossini, c'est avant l'époque des nationalismes, du risorgimento.
Et je le disais avant de cet entretien pour nos auditeurs, c'est vrai que là on est dans une pièce totalement politique, 17e siècle, Angleterre, les puritains contre Charles Stuart.
Et il faut dire que le squill et la trombe, le fameux duo entre la basse et la baryton, et le baryton, squill et la trombe, était une espèce d'hymne national avant l'unité d'Italie. C'était vraiment comme ça, vive la liberté, et aux armes, comme ça, contre l'ennemi. En Italie, c'était absolument impossible de faire. Et donc, c'est devenu une espèce de hymne pour les révolutionnaires italiens. Donc le côté politique est tout à fait fort dans cet ouvrage.
Justement, ce concert, c'est ce soir, puisqu'on enregistre mardi 13 novembre dans l'après-midi, c'est-à-dire quelques heures avant le concert. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, comme ça, quelques heures avant le concert?
Je peux souhaiter que mais je sais que c'est déjà comme ça, les Lyonnais aiment le bel canto, parce que c'est déjà plusieurs années qu'on fait ce projet avec Evelino Pido, et le succès était toujours vraiment, vraiment formidable, et donc le public aime et comprend très bien ce répertoire qui est vraiment important.
Très bien, et ben on vous souhaite tout ce bonheur là et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Ce sera le mot de la fin. Merci Stefano Rabaglia.
C'est moi, merci.